Bonjour à tous et à toutes. Bien, je vais aujourd'hui continuer sur la série bien sûr précédente où je vais vous donner quelques petits détails supplémentaires car bien évidemment il y a des questions. Hein. Alors il faut savoir que cette vidéo que je suis en train de faire va paraître seulement dans 2 semaines à peu près, c'est-à-dire que grosso modo ne croyez pas que parce que vous voyez la vidéo je l'ai fait la veille au soir. Hein. Donc je vais aborder un certain nombre de... je vais redonner d'abord quelques précisions parce que évidemment la vidéo d'hier, enfin la dernière vidéo que vous avez vue était quand même assez conséquente et que bah, bien évidemment quand on se fait un peu taper dessus comme ça, on chope pas tout. Mais bon, ça n'empêche qu'il peut y avoir quand même des questions qui surviennent. Donc là maintenant, je vais reprendre un tout petit peu ce que j'ai dit pour vous faire comprendre qu'en fait, les choses sont toujours simples et que ça tient la route, on va dire. Donc, partons déjà dans l'élément de base que je vous avais donné, c'est-à-dire que on avait un yin-yang et que dans ce yin-yang, il y avait 4 parties, on va dire, hein, voilà, 4 parties, vous aviez la source, créatrice de toute chose, et qui correspond en vérité à ce que j'avais dit à l'antimatière. C'est elle qui est le pendant de la matière. Et cette matière s'appelle la création. La partie, on va dire, quelque part géométrique, parce que ça c'est une géométrie matérielle, il y a une géométrie immatérielle. Cette géométrie immatérielle, c'est là où se passent les idées, où il y a les idées, où il y a une géométrie. Mais il faut savoir que c'est un 0-1, c'est-à-dire que c'est d'abord de l'antimatière ayant un brin de géométrie. Et on va le voir qu'effectivement, bon, je vais pas aller dans trop de détails, et que en fait, on avait en 0-0, c'est-à-dire le féminin du féminin, en fait, grosso modo, qui est le sans-nom. Alors, je vous avais dit que la création représentait environ 24% du total. Alors, attends, il dit, ouais, mais 24%, bon, c'est bien. Mais ça, là, tout ça. En fait, il faut comprendre que tout l'aspect zéro, puisque c'est de l'antimatière, en fait, est planqué là-dedans. C'est-à-dire que toute cette partie-là se retrouve là, en vérité. Donc c'est pour ça que quand je vous avais fait le schéma avec les deux, parce que bon, si vous aviez suivi un peu l'affaire, je vous avais fait le schéma avec l'aspect cristallin et l'aspect solaire. Et je vous avais dit, ceci est la source. Et la source, vous allez me dire, c'est ça, mais c'est pas ça. Donc pour les gens qui sont un petit peu logiques, ils me disent, mais comment ça peut faire 80% du boulot, enfin 75-80% du boulot, alors que c'est juste là. Alors, et ça prend combien de place? Bah en vérité, ça prend aucune place. Ça prend aucune place, puisque la place est fonction de la matière. Donc en fait, par l'effet d'intrication et d'imbrication, ces parties-là, en fait, on va les trouver là, derrière. Parce que quelque part, qu'est-ce qu'il y a derrière la source de toute chose? Eh bien, il y a forcément, parce que si je vous avais mis le 0,0 ici, enfin, je vous avais mis 0, entre guillemets, qui est la source, puis je vous avais mis 1, qui est, en fait, tout l'aspect création, c'est-à-dire la matière. Et donc, évidemment, quand on regarde ça, on a l'impression qu'on voit que la moitié de la chose. Et on se dit, mais ça, c'est où? Eh bien, ça, c'est planqué derrière ça. C'est pour ça que ça fait 3/4. Parce que là, ça fait 1/2 plus 1/4, ça fait 3/4. Ça, en tant que tel, n'a pas d'existence. C'est-à-dire que si vous dites le sans-nom, il est où? Eh bien, c'est la totale. Or, nous, qu'est-ce que nous voyons comme totale? Seulement la source, créatrice de toute chose. Donc, en vérité, toute la partie supérieure ici, qui est donc du 0,0 et du 0,1, en fait, est intégrée à l'intérieur de ça par définition. On ne peut pas faire autrement. Parce que sinon, ça ne pourrait pas exister. Voilà pourquoi il y a 3/4 et 1/4. Bon, il y en a qui a continué d'essayer de s'exciter là. Hein. Donc, c'était donc juste pour vous rendre compte, parce que pour moi c'était une évidence, mais voilà. Hein. Donc, cette partie-là, qui est pure vibration, est en vérité incluse à l'intérieur de la source créatrice de toute chose. Le sans-nom est bien la totalité de tout ça. Et donc, c'est parce que ceci est inclus dans cela que, obligatoirement, vous avez à l'intérieur de la source créatrice de toute chose des idées. Il y a des idées. Et on dit, ah, c'est la volonté du sans-nom. Il aimerait expérimenter ça. Et comment le sans-nom, il va causer à la source créatrice de toute chose. Donc, en vérité, cette partie géométrique qui s'appelle les idées viennent comme des petites géométries qui se développent dans le zéro, qui est la source créatrice de toute chose, et qui ensuite, en passant par le côté plasmatique, va nous donner un résultat matériel qu'on va appeler la matière visible, puisqu'ici c'est la matière noire. Donc, les idées du sans-nom, c'est pas « Attends, je vais aller les choper, ils sont là-bas. » Elles sont partout, puisqu'elles sont à l'intérieur. Alors, je vous avais parlé aussi, à une époque, il y a très très longtemps de ça, que ici, ce que nous voyons, c'est un état, on va dire, atomique, pour ne pas dire moléculaire, nous concernant. Parce que si vous voulez voir déjà une molécule, il va falloir se lever de bonheur. Hein. Donc c'est que grâce au microscope qu'on peut voir. D'accord. Alors, allez imaginer d'aller voir les neutrons, d'aller voir les quarks, et d'aller voir les cordes. Ben, c'est quoi les cordes? Ben, c'est quelque chose qui joue dans ce goût-là. C'est-à-dire, c'est le constituant même de ce qui constitue ceci, de ce qui constitue cela, et qui va constituer la matière. Bon, il est excité, c'est normal. Hein, n'inquiétez pas. Bon, alors, ça, c'était donc la première chose que je voulais vous dire. C'est que toute la partie supérieure ici, qui est donc l'aspect zéro, est forcément incluse dans la partie zéro d'ici. Et donc cette partie idée va se retrouver bien sûr à l'intérieur de ça. Et c'est ce qui va permettre, grâce à l'aspect plasmatique, c'est-à-dire tout ce qui est la partie noire, c'est-à-dire celle-ci, va permettre la création de ce que nous on va voir sous un angle très très petit, très minuscule, de 4%. Et ce 4% correspond à cette partie-là, on va dire 1D2D, c'est-à-dire au premier moteur qu'on va trouver ici. Et ce premier moteur, nous le voyons. Et pourquoi le voyons-nous? C'est la question qu'on pourrait se poser. Parce que, par exemple, quand vous êtes en 3D, 4D, rappelez-vous que la 3D, 4D est en fait ni plus ni moins que vos croyances, parce que votre mental, il est en 3D. Est-ce que votre mental, vous l'avez vu sous le microscope? C'est la question qu'il faut se poser quand même. Est-ce que vos pensées, vous les voyez sous le microscope? Non. Donc, en vérité, la 3D, 4D correspond à un aspect, on va dire éthérique, en vérité plasmatique, qui s'agigote, mais n'est pas visible dans la matière. Pas visible sous un appareil constitué de matière. D'accord? Enfin bon, un jour on fera ce qu'on appelle des microscopes multidimensionnels. Et là, on n'aura plus qu'à régler sur quelle dimension on veut regarder. Bon, on n'en est pas encore à ce stade. Pour l'instant, on est seulement au stade de la 1D2D, c'est-à-dire de voir une double hélice, deux brins d'ADN, une double hélice, et on ne peut rien voir d'autre. Le jour où l'humanité arrêtera de penser que ça c'est l'unique vérité, c'est-à-dire commencera à découvrir qu'il existe d'autres vérités, eh bien à ce moment-là, il viendra à lui ce qu'on appelle un matériel qui leur permettra de voir d'autres dimensions. Et donc de découvrir les autres brins d'ADN. On appellera ça des microscopes quantiques. Et donc, comme j'avais dit dans une vidéo il y a très longtemps de ça, si aujourd'hui les scientifiques n'arrivent pas à joindre les deux bouts dans leur, toutes les théories, parce qu'ils disent, attention, il y a la gravitation, il y a la force forte, il y a la force faible, et il y a le magnétisme, ils disent, putain, on n'arrive pas à coller tous les morceaux. Et c'est normal, mon coco. Parce qu'ils ont oublié, ils ont attaqué ça, donc, premier moteur, ils ont attaqué le deuxième moteur, et puis, il dit, putain, il manque quelque chose. Eh oui, mon coco, il manque le troisième moteur. Puisque comme nous sommes, rappelez-vous, dans le 1-1, tant que le troisième moteur n'aura pas été compris par nos scientifiques, eh ben, ils ne pourront pas faire une théorie qui unifie toutes les règles de la physique. C'est pour ça qu'ils marnent. Ils essayent de résoudre une équation alors qu'ils ont que les deux tiers de l'info. Il leur manque un tiers d'info. Et là, il va falloir qu'ils remettent en cause la vision purement 3D de ce qui se passe. Parce que comme ils sont là, à la rigueur, quand ils ont découvert ce qu'on appelle le quantique, c'est parce que tout simplement, ils sont passés un petit peu en quatrième, et ils disent, attends, là, il y a les lois qui suivent les lois dites newtoniennes, c'est-à-dire, alors voilà, il y a un centre avec une gravitation, avec une planète, et ça tourne autour. On est d'accord, sur ça, ils ont trouvé. Ils disent, si je marche à 2 km et pendant une heure, je fais du 2 km heure. Ok, vachement bien. Et quand ils ont commencé à taquiner le niveau atomique, et surtout subatomique, les règles n'étaient plus du tout les mêmes. Et c'est normal, puisque comme ils sont sortis du truc, ils ont commencé à traverser, à voir les frontières qu'il y a entre chaque couche quantique. Abordant la frontière, ils disent, putain, ça marche plus comme avant. La matière, on se rend compte qu'elle est capable de passer sous forme ondulatoire. Et puis les ondes, elles se recombinent pour refabriquer le truc. Si ça va pas là. Ça veut dire, tu as un verre ici, tu mets un mur et tu retrouves le verre à côté. Tu te dis, mais comment qu'il a fait le verre pour aller de l'autre côté? Ils ont donc découvert l'aspect ondulatoire. Et l'aspect ondulatoire a donc amené à forger de nouvelles règles. En disant, ils sont quantiques. Parce qu'ils sont passés d'un univers, enfin d'un moteur à un autre moteur. Alors ils disent, c'est quantique. C'est pour ça que ça raconte tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que, quand on est dans la 3D-4D, on se dit, merde, celui qui regarde la matière influence la matière. C'est-à-dire que la matière se conforme à ce que l'autre il est en train de penser. Donc il est évident que tous les scientifiques qui ont abordé, on va dire, la science quantique, ils sont complètement déboussolés, ça n'a pas de quoi et cause. Alors, ils ont découvert des règles, mais qui ne suivent absolument pas les règles de ce qu'il y a de la 1D, 2D. Parce qu'ils passent sur un autre moteur. Et là, problème. Donc le jour... Alors maintenant, la mécanique quantique, tout le monde commence à venir, ouais, c'est quoi le problème? Donc on va forcément arriver à un moment à passer dans un autre moteur, celui, on va dire, du ciel, et on va se rendre compte qu'il y a d'autres règles. C'est pour ça que, ici, là, vous avez, excusez-moi, tous les romans de science-fiction qui disent « Je suis un voyageur dans le temps. Alors, je vais aller me projeter en 3657 et je vais voir ce qui se passe. » Alors, ça fait sourire. Alors, on se disait déjà, c'est pas mal si on peut aller dans le passé, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à aller dans le passé et puis dire, voilà, alors ils vont parler d'Anal Akashique et tout bordel, etc. Alors, ça peut encore rentrer dans le système linéaire des choses. C'est le passé, donc ça s'est passé, donc on peut y aller. Mais alors le futur. Et c'est là qu'ils vont avoir, on va dire, une problématique. C'est que nous n'avons pas un fil du temps, mais des fils du temps. Et ces fils du temps, on verra que c'est tout simplement comme un bouchon qui se balade sur l'océan et puis qui est baladé un peu partout. Il peut se trouver à n'importe quel endroit, mais ça ne veut pas dire qu'à l'endroit là où il est, que c'est forcément le seul chemin que l'humanité va prendre. Donc on voit que le futur de l'humanité est en fait une étendue statistique et on se dit, bon, les courants nous emmènent par là. Quand je dis les courants, ce qui se passe dans la tête des gens, dans le cœur des gens et de ce qu'ils émettent. Alors, c'est le gars, il est en train de pagayer là, Hein, et puis ils disent, qu'est-ce qui va nous tomber sur le dos? Bah, ça dépend comment tu rames. Parce que si tu rames toujours à droite, bah, tu vas tourner vraiment à droite et tu n'auras pas la même chose que si tu tournes à gauche ou si tu vas tout droit. Donc tout dépend à quel, comment tu pédales, enfin comment tu vas ramer, à quelle vitesse, à quelle profondeur, etc. Et si tu vas suivre la météo. Donc, concrètement parlant, quand on me dit, on a rencontré des voyageurs du temps qui nous ont dit ceci, qui nous ont dit ceci, cela, c'est par rapport à certains fils du temps, à certaines réalités. Et ça ne veut pas dire que c'est la seule. La preuve en est évidente. Nombre de prophètes qui disaient attention, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, c'était par rapport à des possibilités de là où on pouvait y aller. Mais théoriquement, vous savez, en l'an 2000, on aurait dû être morte. Ah, je vous cause encore. Et puis en 2012, on aurait dû être rayé de la carte définitivement, je vous cause encore. Donc, quelque part, ce qui veut dire que toutes les prophéties de Nostradamus, de Nombre et de tous ceux qui ont écrit des tas de trucs dans la Bible et compagnie, c'est aussi aléatoire que de rencontrer Brigitte Bardot à ses 20 ans maintenant. Et donc, évidemment, plus vous allez vous concentrer sur cette chose, plus vous allez dire « Ah oui, mais alors attention, là on va avoir un météorite qui va nous tomber sur la tronche, etc. etc. » Plus, rappelez-vous, les idées, vous les avez dedans. Et donc, plus vous allez entretenir cette idée, plus vous allez avoir de chances d'aller vers cette idée. Et qu'elle se réalise. Puisque comme vous êtes plasmatique et que vous êtes un créateur incarné, mon coco, on va y aller. Hein. Donc en vérité, les fils du temps que nous avons devant nous dépendent de ceux qui pagaient. Ça ne dépend pas de la météo, enfin de la météo dehors, dire oh, il y a les éléments, les trucs. Oui, bon, il y en a quelques-uns, parce qu'on va dire, les hautes sphères, ils nous tapent un peu sur la coque du bateau, comme dira l'autre, non, c'est un peu par là qu'il faut aller là, un petit peu par là, parce que là, il y a des récifs, mais tu ne les vois pas, mais il y en a. Alors, on ne voudrait pas que ça coule quand même. Hein. Alors, il y a les petites tapettes de temps en temps pour. Tu ne te rends pas compte ce qui se passe, mais bon, voilà. Mais c'est simplement pour essayer de diriger le gamin qu'on est vers la véritable école. Hein. Donc. Pour revenir à tout ce que je disais, maintenant, parce que je vous ai raconté une autre information, on va dire, qui était importante et qu'il faut que vous compreniez, c'est que je vous avais dit le fameux QHC. Alors d'abord, THC, hein, Terre, Humain, Ciel, c'est les trois moteurs de base qu'il va falloir unifier pour arriver à savoir ce qui se passe et pour pouvoir véritablement devenir des créateurs incarnés. C'est-à-dire de pouvoir utiliser l'aspect plasmatique des choses. Mais cet aspect plasmatique, comme dirait l'autre, pour l'instant, nous ne pouvions pas vraiment l'utiliser pour la simple bonne raison, c'est que les étages ici, tous les étages qu'il y avait, ont été effacés. C'est-à-dire qu'il faut les reconstruire en termes de logique. Parce que ici, le plasma, il est là, mais on n'a pas fait les boîtes. Hein. Et les boîtes, vous savez, c'est les fameux cubes hein, dont je parle. Donc l'ancêtre, c'est que, hop, on passe à la boîte au-dessus. Ce qui veut dire que maintenant, nous sommes capables d'unifier le 1-1. Enfin, de reconstruire, de revenir visiter les étages. On est d'accord. Mais bon, le processus n'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. On a déjà du taf. On a déjà quoi faire. Hein, d'accord. Alors, maintenant, allons un tout petit peu plus loin, parce que bien évidemment, je vous ai donné un certain nombre d'informations en vous disant, en vérité, le temps n'existe pas. Parce qu'il y a un éternel présent. Alors là, déjà... déjà pour comprendre ça, on peut intellectuellement comprendre. Mais alors le vivre, on a encore du chemin à faire. D'accord? Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit email il n'y a pas très longtemps, il me dit, c'est Laurent, je suis un peu paumé, parce que j'ai du mal à comprendre nos vies antérieures et qu'on vit toutes nos vies en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Ben non, ça dépend. Ça dépend de comment tu vas regarder la chose. Si tu regardes la chose d'un point de vue géométrique et en version 3D, 4D, tu vas voir les choses linéaires, tu dis il y a des vies antérieures. Oui. Donc il y a des vues futures. Oui. Simplement, elles existent déjà. Et ce qui est marrant, c'est que ces vies futures, de temps en temps, reviennent dans notre présent pour modifier le truc parce qu'on s'est pris les récifs. Vous savez, c'est retour vers le futur, etc. Ben, c'est la vérité. Donc, il y a, dans votre vie actuellement, il y a eu des moments où il s'est passé quelque chose, et qui vous a quelque part soit sauvé la vie, soit ceci, soit ceci, soit cela, parce qu'en vérité, le fil du temps que vous avez exploré, ça ne jouait pas, alors hop, clac. Mais est-ce que ça a véritablement comment dire, été réel? En vérité, non. Puisqu'en fait, tout est holographique et en fait, on bouge ce qu'on veut où on veut. Donc la réalité que vous avez vécue, où vous êtes pris un tronc d'arbre sur la tronche, vous êtes effectivement mort. Mais il existe aussi un autre scénario qui fait que, juste avant que l'arbre tombe, vous avez fait un pas à côté. Alors, le tronc est passé là, la branche passée là, hein, d'accord? Mais vous n'êtes pas mort. Et donc, c'est une nouvelle réalité. Mais en vérité, c'est juste l'exploration en conscience de quelque chose qui était potentiellement là. Et donc, en fait, tout est en train d'être interactif avec toutes vos vies et avec tous les règnes. Bon, de quoi tu causes, Laurent, là? Bien, alors maintenant, je vais continuer à reprendre un tout petit peu ce que je vous avais dit. Donc ici, je vous avais parlé du THC, d'accord? Donc, tant que nous n'avons pas suffisamment réunifié notre THC, c'est-à-dire relancé nos trois moteurs et remis en fait les étages en place, c'est-à-dire tout l'aspect cristallin. Donc ici, je remets, donc je vais appeler le... Bon, allez, je le mets ici, hein, le THC. Il nous faut comprendre ce que c'est le QHF. Alors, elle a mis sa souris parce qu'elle pense QHF. Moi, je dis le quantique haute fréquence. Hein, d'accord, hein. Bon, ben, on peut prendre ce qu'on veut, mais ça relève à peu près du même niveau. Bon, lui, là, il vient de plus en plus... Hein. Alors, je vous avais dit le QHC, voilà, que c'était quoi? Que le... Ah, faudrait que je prenne des couleurs, enfin bref... Allez, je vais prendre un orange. Que le quantique, délimite des espaces fréquentiels, délimite des, comment dire, des octaves spécifiques. Elle dit, voilà, tu vas jouer de telle octave à telle octave et c'est tout. Mais tu peux retrouver dans cette octave, en fait, une copie de toutes les notes qu'il y a dans les autres octaves. Par exemple, quand je prends le premier octave, ici, hein, par exemple le premier chakra, première octave, hein, on va dire la 1D, bah, je retrouve bien les lettres, enfin les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, puisqu'on est basé sur 7 au départ pour l'instant. Hein, d'accord, 2D, 3D, 4D, 5D. Bon, tout ça, 5D, 6D, 7D. Donc on est basé sur une base 7. Donc, on est basé là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a bien Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ici. Mais aussi dans le deuxième aussi, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis dans le troisième, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis dans le quatrième, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis dans le cinquième, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis dans le sixième, etc. Pourquoi? Eh bien, ça s'appelle l'intrication, mon ami. Donc, ce qui se passe au niveau d'un octave se répercute forcément à une résonance sur tous les autres octaves. Donc, si tu joues sur ta note Do, ici, cela va avoir un impact sur la note Do de celui-là. Voilà pourquoi notre processus d'apprentissage dans cette matière bioplasmique, cristalline, ben qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la première année, vous foutez le nez dehors. Dès que vous foutez le nez dehors, touc, vous rentrez version 1D et vous allez vous choper un apprentissage simple. Alors, vous êtes en première octave. Première note, enfin note 1, on va dire, allez, première note, hein, d'accord? Première note. Quand vous fêtez vos 1 an, vous êtes toujours dans le premier octave, mais vous allez attaquer la deuxième note, etc. Et donc, quand vous arrivez à la septième note, vous avez 7 ans. Donc, quand vous allez fêter vos 7 ans, vous allez passer au deuxième octave. Donc, vous faites deuxième octave, note 1. Deuxième octave, note 2, etc., etc. Mais ce qu'il y a, de par la force de l'intrication, celles-ci sont connectées. Donc si vous arrivez, excusez-moi, une couille sérieuse lors de la première année, vous êtes sûr qu'entre 7 ou 8 ans, il va y avoir une résonance ici, là. Il va y avoir une dissonance, il va y avoir un truc là. Voilà pourquoi tous les 7 ans, vous revisitez, en vérité, la même note, mais sous un octave différent. Et donc, forcément, vous allez avoir une facette différente, parce que vous regardez différemment. Vous regardez différemment, donc forcément. Et donc, le propre de la vie, de l'apprentissage que nous avons actuellement, c'est de faire le tour des différents octaves qui nous sont données. Pour l'instant, c'est la base 7 de ces différents octaves, mais nous ne faisons que visiter, en vérité, des notes, cette note spécifique, que nous revisitons tous les ans, mais avec une hauteur de vue différente. D'accord ? Donc là, vous voyez en vérité ce qu'est, on va dire, l'imbrication-intrication. Parce que ici, c'est imbriqué, et là, c'est intriqué. Donc, notre processus d'apprentissage dans la vie n'est tout simplement que le processus mis en place du QHC. D'accord. Donc ici, on voit que ces trucs-là, là, sont espacés comme les couches d'un atome. J'ai des couches, elles sont espacées les unes des autres. Alors, ils sont espacés par un truc qu'on appelle la constante de Planck. C'est-à-dire que la constante de Planck est tout simplement une dimension. Alors, je crois que c'est 10-41 ou 10-43, je ne sais plus. C'est une dimension. Alors, quand vous imaginez que l'atome, quand on parle des atomes, en règle générale, on parle en nano. C'est-à-dire 10-9, 10-10. Si vous allez au niveau des quarks, il faut aller, je ne sais pas, 10-15. Quand vous voulez au niveau des cordes, alors je ne sais plus combien, j'avais donné ça sur 7D12D, je crois 10-26, ou je ne sais plus quoi. Ça veut dire que, grosso modo, cette distance-là, cette constante que l'on va trouver, quelles que soient les octaves, c'est tout simplement que ça part de moins l'infini à plus l'infini, mais dans une fourchette donnée. Parce que quand vous arrivez, au niveau de la constante de Planck elle-même, quand vous arrivez à ce niveau-là, le temps et l'espace n'existent plus. Donc tout simplement, l'espace-temps qui va correspondre par exemple à un moteur est constitué, c'est-à-dire que si on veut atteindre le non-temps, il faut aller descendre fréquentiellement jusqu'au 10-41. Ça fait une sacrée fréquence. Hein. Parce que quand on dit 10 moins quelque chose, en fréquence, c'est l'inverse. Ça veut dire 10 plus 41. Ça veut dire un chiffre avec 41 zéros. Ça commence à faire du monde, là. Parce que quand vous dites un milliard, ça en fait que 9. On va dire avec 10 chiffres. Hein. 41, ça fait loin. Hein. Il va falloir y aller, quoi. Et c'est ce que nous constatons chez les gens qui ont de l'eau encodée. C'est que plus vous mesurez, plus vous vous rendez compte que la fréquence augmente, et ça devient complètement dingue. On se dit, mais comment une eau peut atteindre des milliards de milliards de milliards de milliards? Bah, tout simplement, elle ne fait que vibrer de plus en plus dans de très hautes fréquences qui vous amènent, en fait, à vivre plus profondément par rapport à l'espace-temps dans lequel vous vivez. Et donc, c'est pour ça que, à une époque, moi, je mesurais mon eau. D'abord, je commençais à demander par rapport à quelle dimension elle vibrait. Parce que c'est sûr, quand vous partez avec l'eau du Robico qui a 5 ou 10 unités bovis, ça ne fait pas, quoi. Alors, j'avais inventé mis en place une certaine graduation, et puis je suis passé à une graduation encore supérieure, parce que ça devenait complètement infernal, où j'ai parlé d'unités d'infini. C'est-à-dire que par rapport à nous, c'est infini. Ouais, mais tu commences à parler en milliers, puis après en millions d'unités d'infini, tu dis, bon, est-ce que ça vaut encore le coup de mesurer? Pas vraiment. Donc c'est pour ça que je m'en fous complètement. Et que, ben, en fait, ça ne veut plus rien dire du tout. Bref, j'espère que vous avez compris que la mise en place, en fait, de l'expérimentation de ceci est fonction, bien sûr, des trucs qu'on joue. Et je vous avais raconté que, effectivement, maintenant, tous ceux qui naissent vont jusqu'à 12. Donc, on est basé sur une autre chose à ce moment-là, et on verra que, les autres verront que, en vérité, quand vous arrivez en 6D ici, bah, vous faites ça, puis vous faites le 7e, après vous rebouclez, bah, les autres, ils vont pas reboucler là, ils vont aller jusque-là, et aller revenir là. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus 7 notes à expérimenter, mais 12. Et donc, ça va tomber beaucoup plus juste. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a 12 mois dans l'année. C'est aussi con que ça. Alors on dit, ouais, mais pourquoi les semaines, ils font 7 jours? Bon, ben, on a essayé de calquer encore un truc, mais bon, 52 semaines dans l'année, bon, voilà. Alors, il y en a qui disent, oui, mais il y a le calendrier des 13 lunes, etc. Enfin bref, vous avez un peu tout, mais en vérité, vous allez voir que quand quelqu'un est en base 12, eh bien, automatiquement, il va savoir que le mois de janvier va correspondre à une note. Et en fait, nous allons retomber sur ce qu'on appelle l'astrologie. Donc aujourd'hui, on nous cause l'astrologie avec 12 signes, mais on est en base 7. Donc on voit bien que ça s'emboîte pas terrible cette affaire. Mais quand il va y avoir, enfin maintenant c'est déjà commencé pour certains, quand il va y avoir synchronisation des 12 boîtes avec effectivement les 12 secteurs, les 12 signes astrologiques, là on va retomber sur des choses qui va faire drôle. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'astrologie d'aujourd'hui, c'est bien, mais pour moi, ça a eu vécu. Ça a eu vécu. Il va falloir réinventer véritablement l'astrologie, mais coincée par rapport à 12 brins d'ADN. Alors, quand le côté plasmatique, enfin, quand le cube aura, c'est-à-dire que quand Terre-Mère aura déjà atteint ici, faut comprendre qu'à ce moment-là, on aura retrouvé le building à 12 étages. Ça veut dire que l'effet que va avoir chaque planète sur chaque étage va être précis. Chaque signe va être précis. Donc, nous allons redécouvrir ce que c'est d'être en accord avec l'horlogerie céleste. Aujourd'hui, on est complètement à côté de la plaque. Vous comprenez pourquoi que j'avais un certain nombre de freins par rapport à des trucs, on va dire, d'aujourd'hui, enfin, qu'on va dire d'aujourd'hui, qui datent depuis millénaires, où on appelle l'astrologie machin truc. Alors tu dis, oh là, on prend les tropiques, on prend le sidéral. Alors déjà ça. Après, tu vas en Inde, ils ont encore leur astrologie à eux. Enfin, globalement, tu dis, ça dépend où je crèche, chacun ses interprétations. Donc, tu dis, attends, ça, c'est pas unifié, c'est pas homogène. Donc, ça veut dire, excusez-moi, il y a une couille dans le potage. Donc, c'est pas la peine de vouloir aller gratter le truc, parce que de toute façon, vous allez gratter quelque chose qui est falsifié. Il a bien sûr des pépites de vérité, mais il est bien enrobé. Hein, hein. Donc, je reviens un petit peu là, parce que bon, hein, je fais que partir un petit peu, mais bon, je pense que vous avez compris des trucs. Eh bien, le quantique est déjà là. Et en fait, notre monde ne fonctionne de la même manière, c'est le même schéma à chaque étage. C'est le même schéma à chaque étage. Donc ici, si j'ai un schéma que je vais présenter par exemple en vert, si j'ai un schéma, alors je vais présenter un schéma comme ça, eh bien on va le retrouver là. Et puis on va le retrouver là. C'est-à-dire, c'est toujours le même schéma. Et ce même schéma s'appelle, je vous l'avais dit, le fractal. C'est-à-dire que ce qui est là va se retrouver là, va se retrouver là, mais dans un quantum, dans une dimension différente. Mais c'est le même fonctionnement. Or, quand vous regardez ici les notes, le Do, c'est un Do. Qu'il soit ici ou qu'il soit là. Simplement, il va agir différemment en fonction, en fonction de l'aspect fractal. Donc on va se dire, bah, ce qui joue là, eh ben, dans le principe de fonctionnement, ça sera identique au-dessus. Donc, par exemple, quand vous abordez la notion de 6D, 5D, 6D, où ce sont les êtres de la nature, eh bien, ce sont des civilisations comme nous. Ils se marient, ils ont des gosses, ils ont des règles sociales, ils ont des coutumes, et la coutume des nains à cet endroit-là ne sera pas la même que celle que de l'à côté, puis à celle de l'à côté, parce que ça dépend des régions, des trucs, des machins, etc. Et en fait, on va retrouver exactement le même mode de fonctionnement que celui de l'humanité, sauf que eux, par définition, sont unifiés, et que eux, eh ben, même s'ils ont la grosse hache, la lance et puis le bouclier, en fait, c'est pas pour se faire vraiment la guerre entre eux. C'est surtout pour se défendre par rapport à nous. Mais quelque part, c'est pas faux. C'est-à-dire ils sont basés sur le même schéma de principe, puisque c'est une fractale. C'est le même mode de fonctionnement, mais ils sont dans une dimension différente. Ils sont en 5D, 6D, alors que nous, on est en 3D, 4D. Mais le fonctionnement, il joue à l'identique. Sauf que c'est nous véritablement les joueurs, ils sont là pour nous aider. Car je vous rappelle, si je mets ça sous cet angle-là, hein, je refais là. Ici, vous avez le moteur de la Terre, là, le moteur de l'humain, et ici, le moteur du ciel. Et donc, forcément, ici, bah, vous avez les EDLN, ce qu'on dit, hein. Vous avez les EDLN, ici, vous avez, bon, bah, on va dire les humains, on va dire, grosso modo, hein. Les humains, y compris les animaux, hein, parce que c'est la 3D, hein. D'accord. Et puis ici, bah, on dit le moteur de la Terre, bah, c'est tout simplement là, tous les élémentaires. Donc, la question qu'il y en a qui vont se poser, alors est-ce que les élémentaires, ils se marient, ils ont des gosses? Eh ben ouais. Ouais. Hey, c'est le même schéma, simplement à un niveau différent. Donc, cela, ils gèrent l'aspect, on va dire la nature élémentaire. Donc ici, bon, allez, je vais mettre nature, et je vais mettre élémentaire. C'est comme ça, hein, ouais, voilà. Élémentaire, eh bien, l'élémentaire, il est là pour s'assurer que vous n'allez pas bidouiller la matière. C'est-à-dire qu'il s'assure que tout ce qui est en dessous du niveau atomique, vous n'y touchiez pas. Donc, vous pouvez jouer avec les atomes. Vous pouvez fabriquer des molécules, vous pouvez fabriquer des produits chimiques, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas descendre dans l'atome. C'est interdit. Sauf si, bien sûr, vous avez l'autorisation d'un élémentaire. Mais l'élémentaire, lui, s'il vous donne l'autorisation d'aller programmer à l'intérieur, au niveau atomique, c'est parce que, justement, vous avez une vibration qui est montée suffisamment haut pour qu'il se rend compte que vous êtes quelque part unifié et que vous ne le faites pas juste parce que vous voulez qu'il y ait de la puissance ou du pouvoir ou de la reconnaissance. Donc, petit aparté, quand Corinne et moi avons reçu les codes, entre guillemets, pour pouvoir encoder, des cailloux, donc des cristaux, eh bien, vous avez deux types d'encodage. Vous avez un encodage moléculaire, et là, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut encoder des cailloux. Tout le monde. Simplement, ça ne tiendra pas dans le temps. C'est ça la différence. Pourquoi ? Parce que comme ça sera un encodage moléculaire, eh bien, il suffit de la chauffer, puis ça y est, ça dégage. Donc, tout le monde peut mettre des sorts dans les cailloux. Ils ne sont pas gênés. Hein. Donc, ils peuvent faire des choses. C'est possible. N'importe quel créateur incarné peut jouer au niveau moléculaire. Sinon, il serait un peu limité. Imaginez qu'on n'y ait pas eu le droit de jouer au niveau moléculaire. Bah, on n'aurait jamais pu faire de la chimie. La chimie est un tripotage moléculaire. Donc, on n'aurait jamais pu faire de chimie. Alors, imaginez qu'on ne puisse pas faire de chimie, on aurait été quand même un peu court dans nos trucs. Hein. Il n'y aurait pas eu de potion magique, il n'y aurait pas eu tout ça. Hein. D'accord ? Donc, quelque part, l'humain, par définition, peut faire, effectivement, un encodage moléculaire. Et si je vais un petit peu plus loin dans le détail, parce que j'en profite. Ici, vous avez la 1D, nature élémentaire, donc vous avez la 1D, et vous avez la 2D. Or, la 2D, on sait que c'est vibratoire, alors que ça, c'est géométrique. Eh bien, c'est clair. Puisque l'humain est ici, il peut jouer avec le niveau moléculaire. Il peut jouer avec le niveau chimie. Parce que c'est une vibration et on peut, ici, avec notre vibration, faire ce qu'on veut, ou avec notre mental qui amène la vibration. On peut trafiquer. Donc on peut faire de la chimie. Et si elle n'est pas faite dans un esprit de respect, dans un esprit, on va dire, du vivant, bah on fait quoi? On crée de la pollution. Donc quand quelqu'un reçoit un caillou, on lui refile un caillou, parce qu'on y a eu droit, hein, on refile un caillou. Ah, il regarde ce qu'il est beau. Oui, alors tu regardes son aspect cristallin, c'est beau, il rayonne dans tel spectre, il est bleu machin truc, etc. Ouais. Mais vibratoirement, il est chargé de quoi? Ah, parce qu'il suffit quelqu'un qui dise « Je vais balancer une information spécifique qu'on va appeler un sort, je vais balancer une information spécifique qui va s'inscrire à l'intérieur du cristal, mais au niveau moléculaire. » Donc quand la personne va l'avoir, oh, qu'est-ce qu'on a au nous ? Eh ben, elle va aussi, vibratoirement, se choper le sort. Puisque l'information contenue, moléculairement parlant, dans l'atome, enfin on va dire dans la molécule, dans le cristal, va se transférer automatiquement à la carcasse de l'individu. Je vous rappelle que ici, là, c'est de l'eau. Essayez de faire la chimie sans eau. Eh ben, il faut se lever de bonne heure déjà là. D'accord? Donc comme on est un sac de flotte, il est évident que cette information qui va être contenue ici va venir impacter notre sac de flotte. Bien, alors, je confirme, tout le monde peut encoder. Alors il y a qui disent, mais moi, je peux encoder des 3C2P. Oui. Puisqu'on sait que si il y a un caillou ici qui n'a pas d'encodage et que vous mettez un 3C2P à côté, eh bien l'information va quand même transiter là. Et donc ici, vous aurez un 3C2P. On est d'accord? Bien. Sauf que comme ce caillou sera, on va dire, soumis à d'autres informations, l'encodage 3C2P va s'en aller. Résultat, c'est un 3C2P, d'accord, hein, mais qu'on va appeler un faux 3C2P. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même un 3C2P. Donc, pendant un certain temps, il délivrera son information, jusqu'à temps que, ben, en fait, le reste fait que l'information dégage. C'est aussi simple que ça. Alors, ensuite, quand vous passez au niveau, on va dire, 1D, là, on est dans la géométrie. Et là, c'est vachement plus difficile, puisque, comme je vous dis, on est au niveau atomique. Ça veut dire que l'être de la nature, l'élémentaire, a la possibilité, lui, d'ouvrir la frontière subatomique. Et donc, une fois qu'il ouvre la frontière subatomique, l'information rentre dedans et elle se referme. Le résultat, le vrai 3C2P, c'est, alors celui-là sera un 3C2P, on va dire, moléculaire, alors que celui, version 2D, alors que celui qui est, comment dire, qui a été ouvert en subatomique, aura un encodage 3C2P subatomique. Bon, donc on va dire atomique, hein, on va pas s'emmerder, hein, aura un encodage atomique. Or, comme le créateur incarné normal, ben, il ne peut pas toucher ce qu'il y a là-dedans. Il ne peut rien faire. Et c'est ça la nuance. Donc, certain nombre de gens, quand on a dit oui, on a rencontré un géant de pierre qui ouvre les pierres et puis qui nous permet d'envoyer la programmation ensuite de refermer. Mais d'abord, cette programmation, elle n'est pas de nous. On n'a rien programmé, on n'a aucune intention précise et on veut manipuler personne. Donc le code qui passe est sous la surveillance, bien sûr, de l'élémentaire qui regarde si effectivement c'est bien le code et qu'il est dégagé de toute empreinte imaginable d'un humain avec un ego. Parce que s'il sent qu'il y a le moindre truc, c'est nana, hein, je peux vous dire. Alors déjà, arrivez à vous faire copain avec un élémentaire, avec un géant de pierre. Hein. Tout le monde dit qu'il se pomme, hein, parce que moi j'en ai rencontré quand même quelques-uns. Je dis, ah moi j'ai programmé quelques pierres, j'ai un élémentaire, il a balancé des pierres dans le Pacifique et tout, et puis l'autre dans l'Atlantique, et puis voilà, tout. C'est du flan, mais alors à l'état total. mais sont convaincus. C'est normal. Ce sont des créateurs incarnés, et selon leur petit ego, ils vont créer tout ce qu'ils veulent. Rappelez-vous ici que la 2D, c'est l'astral. Et ça crée tout ce que ça veut. Donc, je connais un certain nombre de personnes qui peuvent se dire « Ouais, mais moi, j'ai un géant de pierre, je peux encoder, je fais ce que je veux, ta 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 ta. » Ben, faudra aller vérifier si c'est vraiment de l'atomique. Donc, ça va être généralement un moléculaire qui va durer un certain temps. Puis, arrivé à un moment, vous direz « J'ai mes cailloux dans ma bouteille, mais c'est bizarre, ça monte plus, là. » Ben, parce que simplement, ils sont plus, voilà, quoi, hein, ils s'usent. Voilà, donc ça c'était donc une petite précision supplémentaire, c'est que quand on joue avec la matière, bah, ça dépend à quel niveau vous jouez. Donc nous, en tant que créateur incarné, nous pouvons jouer au moléculaire, mais pas à l'atomique. Nous ne pouvons pas modifier la programmation de l'atomique. Et c'est pour ça que quand on joue avec ni plus ni moins l'énergie atomique, c'est-à-dire qu'on casse des atomes, eh bien à ce moment-là, on fait un véritable carnage. Parce que c'est comme si on balançait, en fait, on essaye de casser ça, et ça se répercute, bien sûr, dans tout le côté plasmatique. Et donc, forcément, toutes les entités qui vivent dans ce plasma ici, ben, ils se ramassent toutes les explosions, parce que sachez que ce qu'il y a dans l'infiniment petit est en vérité ce qu'il y a dans l'infiniment grand. Donc, à chaque fois que vous faites péter un atome, eh bien, ni plus ni moins, vous êtes en train de détruire des galaxies entières, vous êtes en train de détruire des choses, parce que tout est intriqué. Donc comme je vous disais, quand on joue avec l'énergie atomique, on détruit l'esprit. Parce que votre esprit, c'est quoi d'après vous? Donc ici, quand je vous avais dit l'homme, c'est quoi? Ben, l'homme, c'est du plasmique. Alors quand vous vous amusez à déconner à ce niveau-là, c'est sûr que ça remonte hein, dans les étages. Et donc si vous détruisez le plasmique, ben, c'est pas difficile que ici, dans le dans l'antimatière, ben, ça passe quoi aussi? Parce que si vous détruisez une particule de ce côté-là, ben, en face, ça fait de même. Donc, grosso modo, les humains sont des ignorants notoires, jouant non pas juste avec leur petite planète et trois bombes parce qu'ils disent « moi j'ai le pouvoir, viens pour faire chier », parce que c'est soi-disant une force de dissuasion, en vérité, on est en train de détruire. Donc c'est pour ça que théoriquement, l'évolution, on va dire, d'une civilisation est fortement suivie, et le jour où ils utilisent la force atomique, là, je peux vous dire, vous avez tous les galactiques qui débarquent. Pour dire « ah, ça y est, ils ont atteint un niveau de progression ». Le problème, c'est que ce que nous avons découvert en termes atomiques, nous ne l'avons pas fait naturellement. Ce sont des galactiques pas gentilles qui ont refilé la technologie. Donc ça veut dire que c'est comme si vous dites « Ah, il y a les gamins, ils sont turbulents à l'école, tiens, je vais leur donner un petit pistolet, là. Ah, » puis avec des vraies balles. Hein. Et puis, bah, comme c'est des pétards, ils tirent, ils s'amusent, ils disent « On fait des essais, hein !» Mais ils n'ont absolument aucune idée que quand ils tirent, quand ils font un essai nucléaire, en fait, ils envoient une balle et puis ça tue des gens, ça tue des choses en face. Mais ils ne le voient pas. Bon, sur Terre, ils voient que ça ne fait pas du bien. On est d'accord. Donc c'est pour ça que depuis en fait 2012, toute chose atomique, théoriquement, enfin 2013 on va dire, depuis l'an 1, toute chose atomique est... plus aucune explosion atomique, c'est terminé ça. Donc alors, si vous avez en tête, oui, alors attention, il va y avoir une troisième guerre vers les bombes atomiques et tout ça, vous rayez de la carte, parce que ça, c'est un scénario que vous vous créez, et que vous allez vivre sur un fil du temps, mais ailleurs, mais pas sur cette planète. Parce que sur cette planète, c'est terminé. D'accord? Bien, donc... on a vu l'effet fractal qui dit que quand tu joues sur la note Do ici, bah tu joues sur la Do ici, puis la Do ici, puis la Do ici. L'intrication. Parce que c'est le même fonctionnement, mais comme on voit que ce sont des couches les unes, enfin je vais dire, ils sont imbriqués, hein, parce que quand je prends le petit cube de 1D, le petit cube de 1D, il est là. Puis après il y a le 2D, puis après il y a le 3D, puis après il y a le 4D, ils sont bien imbriqués. Hein. Mais intriqué aussi. Donc ça, c'est une notion qui est importante. Ensuite, eh bien, l'aspect holographique, comme je vous disais, c'était tout simplement l'aspect, la capacité de pouvoir regarder, regarder dans une couche quantique. Si mon curseur, je le prends et je le balance là, je suis dans un autre espace-temps. Mais, grâce à l'intrication, si je veux savoir ce qui se passe là, je ne suis pas obligé d'aller là. Il suffit que j'aille simplement, comme c'est fractal. Ici, admettons, c'est fractal, alors on divise par 12. J'ai de 1 à 12. D'accord ? Hein, puisque ça fait comme là, là. Hein, voilà, 12 notes. Bah, c'est simple. Si moi, là, je suis réglé sur ce côté-là, eh ben, je vais simplement aller voir ce qui se passe en 3D, en 2D, en 1D, mais aussi en 5D, en 6D, puis ailleurs. Je ne suis pas obligé de sortir de cette couche, on va dire, quantique, pour aller visiter les autres, puisque j'y suis. Donc, point besoin de se dématérialiser pour aller vivre chez quelque chose d'ailleurs. Vous pouvez rester dans ce corps et aller vous balader dans toutes les autres couches, juste par effet résonance. Donc quand quelqu'un commence à voir des êtres de la nature, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait simplement que de faire jouer, entre guillemets, sa corde, là, mais toujours par rapport à cet espace-temps. Donc le véritable passage en 5D, au niveau de Terre-Mère, c'est ça qui est fort, le véritable passage en 5D va consister à faire en sorte que vous puissiez déjà à ce niveau-là avoir le niveau de compréhension pour pouvoir vivre tout ça en conscience. Il y a un certain taf à faire. Mais pour que vous puissiez vivre ça, elle, il faudra qu'elle s'est mise à ce niveau-là, à cette fréquence-là. Parce que rappelez-vous, si vous voulez vivre quelque chose ici, il faut que la musique au-dessus soit juste au-dessus. Voilà. Vous ne pouvez pas être dans un théâtre de 5D et vivre la 5D si le théâtre il n'existe pas. Il faut bien que le théâtre existe d'abord pour qu'ensuite vous puissiez vraiment le vivre. Donc, ici, quand nous passerons dans une structure véritablement 5D, quand Terre-Mère passera dans une structure véritablement 5D, ça voudra dire que l'humain aura réharmonisé toute sa harpe à ce niveau-là, dans cet espace-temps. Donc forcément, quand Terre-Mère sera en 5D matériellement, c'est-à-dire géométriquement parlant, ça voudra dire qu'on sera tous redevenus des Christs. Parce que je vous le rappelle, d'après ma dernière vidéo, nous sommes tous Christ. Simplement, qu'est-ce qui nous empêche de l'être ? Bah, tout ce qu'on a dans le crâne. Toute la géométrie qu'on a là, c'est de la daube. Et ça nous empêche, ça nous empêche de remonter dans les étages. Et comme ça nous empêche de remonter dans les étages, ben on ne peut pas devenir Christ. Mais une fois qu'on aura viré la daube, eh bien petit à petit, on va monter dans les étages et arriver à un moment, on pourra passer effectivement, en tant que créateur incarné, dans l'école de 5D, 6D. Enfin, comprenez ? Donc, nous n'allons pas changer de moteur, pour l'instant, on sera toujours dans le moteur de l'humain, c'est évident, mais il va falloir remettre tout ça en route. Hein. Et c'est là qu'on a du taf. On a vraiment du taf. Alors, je vois que l'heure passe, parce que je n'ai même pas encore vraiment complètement parlé de ce que je voulais vous parler, comme d'habitude. Donc, donc le truc là, maintenant, on va se dire, mais comment arrivons-nous avoir toute cette matière, cette partie 1D, 2D, là. Comment arrivons-nous à voir ça ? On ne voit pas les EDLN, mais ça, on le voit. Je vois bien qu'il y a un arbre. Je vois bien qu'il y a un tableau. On voit bien qu'il y a de la couleur. Donc, comment pouvons-nous arriver à voir ce qui est là ? That is the question. Alors, ben je vais vous donner la réponse, parce que je suis un gars gentil quand même. Hein, quand même. Alors ici, je vais effacer ça. Je vais effacer ça, c'est pour me laisser un petit peu de place hein, quand même. Voilà. On sait que cette partie-là, 1D, 2D, correspond à deux brins d'ADN. Alors, bon... On va essayer de prendre une couleur correspondante. Donc vous avez un brin d'ADN, mais vous avez un autre brin d'ADN, alors il faudrait une autre couleur. Hein. Bon, c'est pas grave, j'ai pris un orange. Et vous avez un autre brin d'ADN. Vous avez deux brins d'ADN. D'accord ? Donc là, je fais comme ça. Vous avez deux brins d'ADN. C'est pour ça que les scientifiques ne voient que ça. Parce qu'ils sont là, donc ils peuvent regarder que ce qui se passe en bas. Hein. Ils ne peuvent pas commencer à regarder ce qui se passe là. Donc pourquoi voit-il deux brins d'ADN uniquement ? Alors de temps en temps, ils envoient un troisième. Hein. Mais ils sont pas chauds parce qu'ici, on ne comprend pas. Alors c'est une anomalie, un mutant, c'est quelque chose. Parce qu'évidemment, il y a des incursions sur l'autre brin d'ADN. Alors ici, je devrais faire, je ne sais pas, en bleu, en vert, par exemple. Ici, vous avez un autre brin d'ADN ici, qui est une géométrie, hein, d'accord ? Et puis, vous en avez un autre, alors je vais prendre une autre couleur. Enfin, bon, il me faudrait des couleurs, beaucoup plus de couleurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon. Donc, il commence à voir un petit bout de la 3D. Un petit bout de l'ADN de la 3D. Mais bon, c'est pas facile pour eux, surtout qu'ils ne peuvent pas l'écrire, ils ne peuvent pas le dire, parce que sinon, ils ont toute la communauté scientifique sur le dos. Et voilà. Alors, les scientifiques voient des choses, mais disent, nous, on met de côté. Voilà. Hein. Mais tu sais, ça sort des trucs. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi ne voyons-nous pas les autres ? Pourquoi on ne les voit pas ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et puis il y en a 6. Parce que globalement, il y a 6 moteurs. Donc ça vous fait 12 brins d'ADN, donc 6 fois 2. Pourquoi on ne les voit pas ? On continue, on attaque. Je vous ai dit tout à l'heure que la 2D était en relation avec l'eau. Eh bien, la principale chose, Géza, c'est que l'eau, c'est un cristal liquide. C'est-à-dire que c'est comme le cristal d'une lentille. S'il n'y a pas la lentille, vous voyez que d'elle. Vous mettez la lentille, vous voyez, j'en ai deux lentilles. Hein. Donc, si j'ôte, ça devient flou, je vois nettement moins. Mais si je mets, je vois mieux. Bon, eh bien l'eau, c'est les lentilles. C'est-à-dire que c'est la lentille, donc l'eau, c'est la lentille qui permet de voir l'ADN. Si on supprime la lentille, on ne voit plus l'ADN. Est-ce que vous avez vu un ADN dans un caillou ? Difficile. D'accord ? Alors, allons un petit peu plus loin comme d'hab. On se dit ici, c'est l'aspect cristallin, le minéral. Le minéral, il n'a pas d'ADN. Par contre, dès qu'on commence à taper dans la nature, le végétal, on commence à trouver de l'ADN. Ce qui veut dire que véritablement, l'ADN ne peut être vu, entre guillemets, et ne peut être, excusez-moi, entretenu que parce qu'il y a de l'eau. Si vous prenez une cellule et vous la déshydratez totalement, l'ADN disparaît avec lui. Donc quand on dit, ouais, mais on a retrouvé des cellules de mammouth, oui, celles qui n'ont pas été totalement déshydratées. Alors vous allez me dire, quand un mammouth ça gèle, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Il suffit de la dégeler, puis ça y est, c'est bon. Donc, on peut aller sur Mars ou sur la Lune, prélever trois cailloux, on ne va pas trouver des ADN. Donc, on voit que l'eau est directement liée à l'ADN, et que c'est l'information qu'il y a dans l'eau qui va activer plus ou moins l'ADN. Pourquoi ne voyons-nous que lui ? C'est parce que nous sommes en 3D et qu'on regarde en dessous. C'est toujours la même règle. Quand tu es dans un truc ici, tu ne peux que voir ce qu'il y a en dessous, mais tu ne peux pas voir ce qui est chez toi. Donc là, on est là, alors on peut voir ça. le jour où des humains arriveront à aller taquiner ces dimensions-là, voir les autres par effet résonance, eh bien, ils pourront commencer à voir des choses. Ils pourront commencer à voir un côté cristallin et donc bioplasmatique, parce qu'on dit bioplasmatique, parce que le plasma, par définition, il n'est pas biologique. Où commence la biologie? En 3D? En 2D? Ou en 1D? Est-ce que vous m'avez trouvé quelque chose de biologique en 1D? Ben, ça n'existe pas. Donc, en fait, cela décrit bien que ce corps bioplasmique cristallin est bien une construction végétale, excusez-moi, une construction biologique, une construction végétale améliorée. Votre système nerveux, c'est ni plus ni moins qu'un arbre. Le tronc, les racines, etc. Donc, quand nous allons faire une bise à un arbre, il est vachement content. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, on est un ancêtre. Parce que lui, pour l'instant, il n'est que arbre. Or non, on l'a déjà été. Comprenez le truc? Quand un animal nous regarde, on est un ancêtre pour lui. C'est le petit gamin qui vient remettre la queue, il dit « Papa, est-ce que tu peux me donner une sucette ?» C'est, quelque part, nous sommes, biologiquement parlant, les plus anciens. On n'est pas au top de la chaîne alimentaire. On est au top de la transformation biologique par rapport à des notes. Donc le fait que pour l'instant nous soyons, on va dire, grosso modo, dans la quatrième note principalement, le fait de passer en 5D, 6D va obligatoirement demander de changer de corps biologique. Ce corps biologique est étudié pour la 3D, 4D, mais pas pour la 5D, 6D. Donc le résultat, il faut qu'il change. Et ce corps qui change, c'est tout simplement, s'appelle le corps silicé. C'est-à-dire que nous sommes en train de migrer vers un nouveau corps. Et donc forcément, ce nouveau corps arrive à un moment, ne pourra plus entretenir, on va dire, la vieille bagnole. Comme je vous dis, on est une bagnole avec 4 roues. On est d'accord? Mais si on ôte les roues, c'est plus une bagnole. Donc on va penser à autre chose. Donc avant, vous avez la carriole avec le cheval, tac tac tac, ou les bœufs. Ben, on l'a foutu dans le moteur, sous le capot. Hein, là, d'accord? Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus la bouse, faut plus. Voilà, mais il faut quand même faire le plein. Hein, parce que voilà. Donc, il y a eu une transformation des carrioles. Aujourd'hui, les carrioles, bon, quand même, ils ont pris un petit peu de différence. Mais arrivé à un moment, la carriole, on va lui ôter les roues. Alors, vous allez me dire, on va appeler ça un ovni. Mais c'est juste une évolution. Et c'est sûr qu'un ovni, vous n'allez pas le fabriquer avec des pièces de ferraille et avec des pièces de plastique en émettant un microprocesseur à la con. Ami, ça sourit, mais c'est la vérité. Donc, donc c'est pour ça que moi ça me fait rire. Quand il y en a qui me disent, ah bah ça y est, on est en 5D, est-ce que tu es en soucoupe volante là? Alors t'es pas en 5D. Hein. Tu peux dans tes rêves être en 5D, mais en vérité, tu ne l'es pas. Physiquement. Mais mentalement, tu peux toujours rêver tout ce que tu veux, c'est pas un problème. Tu peux vivre si tu veux, c'est pas un problème. Tu peux vivre la 5D, tu peux vivre la 6D, tu peux vivre la 7D, tu peux vivre la 8D. Tu peux dire, je suis en 9e dimension. Ouais, d'accord. Attends. Aïe! Bah non, t'es pas en 9e dimension. D'accord? Donc vous pouvez mentalement, vibratoirement, vivre les différentes notes, mais ça ne veut pas dire que votre carcasse, elle va être correspondante à la dimension dans laquelle vous sentez être. Donc il faut vraiment faire une différence entre la vibration et la géométrie. Bah ouais. Donc nous, dans le temps, on a eu un petit peu avec Corinne, on a eu bien sûr contact avec nos copains galactiques, et on a eu des petits ennuis, on va dire, physiques, hein, matériels. 1D. Même pas 3D, 1D. On leur a dit, est-ce que vous pourriez venir là dans notre 3D pour nous aider dans la version 1D? Ils ont dit, attendez, ça nous prend quand même un certain temps pour arriver de passer de notre dimension à la vôtre. Hein, parce qu'il va falloir qu'on baisse nos vibrations, et puis qu'on structure et qu'on baisse, et qu'on structure et qu'on baisse, pour que physiquement, on puisse intervenir chez nous. Quand on a vu les délais, il a fallu qu'on trouve une autre solution. Hein. C'est clair. Parce que ben, on ne pouvait pas attendre. Parce que pour eux, ça leur a, pour certains, enfin ça dépend hein, qu'est-ce qu'ils ont à déménager, mais globalement, ça peut prendre des mois, voire des années pour certains. Donc c'est une histoire de puissance. Et donc, c'est pour ça que c'est pas facile pour eux pour revenir. Alors, je résume, puis après je vais m'arrêter sur cette vidéo parce que voilà. Je résume que c'est que grâce à l'eau que nous pouvons voir ceci parce que c'est un cristal liquide. Mais parce qu'elle est liquide, elle chope toute la vibration, l'information. Et donc elle est forcément capable, entre guillemets, de l'inscrire là-dedans. Mais elle ne s'inscrira que sous une forme moléculaire. D'accord ? Si c'est fait par un humain. Mais s'il y a l'autorisation par un élémentaire, alors à ce moment-là, cette information peut être encodée à l'intérieur de l'atome lui-même. Ce qui est quand même important. Mais l'autre chose, c'est que cette eau va modifier le décodeur qui s'appelle notre ADN. Et donc cet ADN a une conséquence. C'est qu'en fonction de la fréquence qu'il a, il verra la matière correspondante. C'est-à-dire que votre réalité matérielle, on va un petit peu plus loin, va dépendre de votre ADN. Ce que vous voyez est directement dépendant de votre ADN. Et votre ADN ne peut se réparer, se remettre en place qu'en fonction de la flotte, et qui, elle, prend l'information qui arrive de tout là-haut. Donc, si vous buvez une eau de merde, eh ben, vous n'allez pas améliorer le petit coco, là. Mais si ce petit coco vient se modifier en fonction de l'eau, votre vision de la réalité va changer. Votre perception de la réalité va changer. D'accord ? Et c'est cet ajustement, entre guillemets, qui fait que vous allez avoir l'effet holographique. L'holographie, le graphisme virtuel, est directement dépendant de votre ADN et de sa manière de pouvoir, on va dire, pas décoder l'information, mais en fonction de ce qu'il est, vous verrez ce qu'il est. Donc, quelque part, il modifie votre monde, mais pas la matière. Il ne vous montre seulement que ce qui est en résonance avec ce qu'il est, lui. Il est donc le décodeur. Ok ? Donc, plus vous purifiez l'eau, plus vous lui donnez la patate, plus vous la montez en fréquence, plus, parce que plus vous la montez en fréquence, et plus bah, elle va pouvoir choper les informations qui arrivent d'en haut, hein, évidemment. Et c'est pour ça que je vous disais, je mesure mon eau en fonction des dimensions et non pas en fonction de sa capacité, enfin de ses unités bovistes, je n'ai plus rien à dire. Mais par contre, tu peux demander dans quelle dimension elle est. Et donc, bah, vous verrez que si vous faites cet exercice, eh bien, vous verrez que bah, pour certains, vous serez en 9, 10, 11, 12, et puis après, ça peut aller plus loin aussi, parce que ça ne s'arrête pas à ça. Rappelez-vous, ça va jusqu'à la 24. Hein. Donc, il est évident que si vous avez une eau suffisamment montée en puissance pour arriver, par exemple, à la 24D, ça veut dire que toute l'information qui transite dans les 24 dimensions, votre ADN le chope. Bien évidemment, votre fréquence biologique va augmenter. Et donc, comme elle augmente, ben vous allez regarder la 3D pour ce qu'elle est, et dire, ouais, bon, ben, c'est pas beau ce truc-là. Hein. Voilà pourquoi on vous dit, gardez la fréquence la plus haute. Mais aussi, à côté, buvez pas le Coca-Cola. Dormez pas avec votre téléphone portable allumé toute la nuit. Parce que votre téléphone portable, il envoie des signaux électromagnétiques toute la nuit. Alors avec l'internet, le bordel, tous les trucs, etc. Bah l'eau à côté, là, vous êtes un sac de flotte, ça fait quoi ? Allez, bah ouais, mais bon, je vis dans un bâtiment, il y a les machins, il y a tout. Bah ouais, mais bon, pour l'instant, on fait avec. Hein. Mais donc, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est pas un problème. Les choses avancent. Et c'est pour ça que nos amis de l'invisible sont capables de pouvoir amener, on va dire, quelques outils, quelques outils qui vous permettent, entre guillemets, de vous protéger relativement, soit d'une manière durable, soit d'une manière temporaire. Alors, on va parler de voile de quelque chose. On vous met un voile de protection. Parce que si on ne met pas le voile de protection, vous ramassez tout. Après, on vous dit, mais pourquoi le dopage vibral, parce que le dopage vibral vous met un voile qui vous permet d'éviter que toute vibration extérieure à ce que vous êtes véritablement ne puisse plus vous modifier votre ADN. Tous les outils qui sont mis en place, on va dire, enfin à mon niveau, sont des outils qui permettent tout simplement d'amener un certain nombre de protections, parce que plus vous montez en fréquence, plus vous êtes sensible à toutes les vibrations, et plus vous êtes une éponge. Et il n'est pas question de s'absorber encore plus de merde qu'avant. Comprenez ? Donc il y a des voiles. Donc les gens qui ont fait certaines opérations comme Ange Plus ou DLN Plus, eh bien ils ont découvert ce que c'était le voile de l'invisibilité. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est un voile qui vous est mis et en fait vous venez transparent aux autres. C'est-à-dire que vous êtes toujours là en 3D. On peut vous foutre une baffe. Mais en fait les gens ne vous perçoivent pas. Ah, c'est vachement pratique, hein, quand vous devez aller à l'hôtel et puis que c'est interdit d'y aller, vous y allez quand même. Et puis les autres, ils ne voient pas que vous êtes à l'hôtel. Ben, ça veut dire que ce voile d'invisibilité que vous avez reçu a modifié la fréquence de votre ADN, qui fait que, étant sur un autre niveau, les autres ADN ne le détectent pas. Donc, il n'est pas dans leur réalité. Donc, ils peuvent passer à côté de vous, mais il n'y a pas d'interaction. Donc, vous êtes invisible pour eux. Ils ne vous voient pas. Donc, bon, je vous explique hein, un petit peu techniquement des tas de choses, mais c'est ce qui se passe. Et beaucoup de gens l'ont expérimenté. D'accord ? Donc, bien sûr, je mets pas ça à la vue du grand public en disant ceci, ceci, cela, parce que ça va être du marchand de pouvoir, on deviendra des gourous, ça, c'est pas du tout le truc. Mais pour les gens qui sont sur le chemin et qui relèvent les manches, ça fait partie des outils nécessaires pour pouvoir œuvrer véritablement pour terre-mère. Bon, donc je vais arrêter cette vidéo-là, hein, et puis je reprends tout de suite après, parce que bien sûr, j'ai pas dit ce que je voulais dire. Mais c'était juste l'introduction, mais bon, je pense que vous en avez quand même suffisamment appris déjà à ce niveau-là, et que j'espère que vous avez pu faire quelques petits déclics. Hein. Alors, une autre chose aussi, je sais, pour certains, ils vont regarder tout ça et dire « Putain, j'entrave que dalle ». Alors, c'est normal. D'abord, parce que cette information, quelque part, vous dites, ouais, non, mais je comprends que dalle, j'éteins, je passe à autre chose. Cette information, même si votre petit mental égo, il comprend que dalle sur le moment, vous avez votre subconscient. Je vous rappelle, vous, tous les soirs, quand vous allez vous endormir, vous dites, voilà, tu vires ceci, tu vires cela. Mais là, lui, cette information est rentrée dans votre mental, même si vous ne l'avez pas compris, même si vous ne l'avez pas décortiqué. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est que grosso modo, quand vous allez ensuite vous endormir, le subconscient va dire « Ah, ah, on ne m'a pas dit qu'il fallait virer ça, donc je le garde. » Donc il vous le met dans l'inconscient. Et ça vient s'entasser. D'accord ? Or, je vous ai dit que notre inconscient, c'est 99,9999% de quelque chose. Et en fait, que ça correspond à ce que vous appelez le cœur. Parce que votre mental conscient, lui, hein, c'est 0,000, c'est les cacahuètes. Donc ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous regardez et que vous écoutez le plombier, d'une certaine manière, vous mettez cette information derrière. Et elle va revenir d'une manière ou d'une autre dans votre vie, même si vous avez mentalement rien chopé du tout. Alors vous allez me dire, ah, c'est super le plombier. Ouais. Mais ça marche aussi quand c'est des films d'horreur. Quand c'est toutes les saloperies que vous regardez à la télé ou sur l'ordi. C'est le même fonctionnement. Je sais que c'est peut-être moins bandant de regarder le plombier devant le tableau, hein, parce que ça fait un peu scolaire. On est d'accord, mais bon, il faut savoir. Il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Donc, quelque part, même si vous ne comprenez foutrement rien là maintenant, dites-vous bien que dans un mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, ça va vous devenir une évidence. Vous dites, mais bah oui, c'est évident, c'est quoi là? Il se répète, c'est quoi le truc? Et pourtant, sur le moment, vous avez foutrement rien compris. Donc c'est pour ça, chaque vidéo est faite de telle manière que ça enfonce le clou. Et puis quand il sera enfoncé, hein, bah oui, le clou est enfoncé, donc il n'y a pas de clou. Mais il sera là, effectivement. Bon, allez, je m'arrête là-dessus. Hein. Et je vous dis à la prochaine.